Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'heure du petit déjeuner. Nous sommes le vendredi 31 décembre. Bonjour Laurence Thomas.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, la grève des urgentistes du CHU de Rouen. Ils dénoncent leurs conditions de travail, le manque de lits et de moyens, alors que le variant Omicron a pris le pas sur Delta aujourd'hui en France. Les autres titres, Laurence.
Le compte à rebours pour les entreprises. Elles n'ont plus que 3 jours pour s'organiser avec le télétravail de leurs salariés et certaines ne sont pas encore au point. Emmanuel Macron a la télé ce soir à 20h, vœu présidentiel, une tradition initiée par le général de Gaulle. Et nous reviendrons dans ce journal sur ce coup de fil entre Vladimir Poutine et Joe Biden cette nuit. Échange de mise en garde entre les deux hommes. Ambiance.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Joe Estar, le gastronome. Il lance un magazine trimestriel dédié à la cuisine. Le premier numéro de Five Star est déjà dans les kiosques. Au menu des rencontres, des recettes qui décapent. Le rappeur est notre invité à 7h50. À 8h20, que faut-il attendre des vœux présidentiels de ce soir? 2 invités dans le grand entretien pour y répondre. Édouard Le Cerf, le directeur général adjoint du groupe BVA, et le politologue Thierry Chopin, spécialiste de l'Europe. Vos questions, dès maintenant, au 01 45 24 7000, le standard vient d'ouvrir.
France Inter.
L'étau se resserre sur les hôpitaux face à la déferlante Omicron. Le nouveau variant est désormais largement majoritaire sur notre territoire. Plus de 206 200 contaminations hier. 3500 personnes en soins critiques, dont 300 entrées ces dernières 24 heures. D'où cet avertissement ce matin dans le journal Les Échos de Martin Hirsch, le directeur des hôpitaux parisiens. Ça va tanguer en janvier, dit-il, sous l'effet de la pénurie de soignants, eux-mêmes atteints par le Covid-19. Les arrêts maladie se multiplient. C'est comme si Omicron menaçait de retirer plus d'un millier d'infirmiers des établissements, explique le patron de la PHP, sachant qu'il en manque déjà autant. Et les hôpitaux de Paris ne sont évidemment pas les seuls à manquer de bras. Illustration à Rouen, le personnel des urgences est en grève illimitée pour protester contre la dégradation des conditions de travail. Reportage de Yann Gallic.
C'est un balai quasi ininterrompu d'ambulances et de camions de pompiers qui défilent devant le bâtiment des urgences. Des malades arrivent sur des brancards déposés dans le hall d'entrée. Un afflux de patients liés au Covid, mais aussi à toutes les autres pathologies hivernales.
On aligne les gens dans le couloir. Le temps d'attente, la durée de passage aux urgences s'est allongée considérablement. Il est plus rare de rester 48, voire 72 heures aux urgences.
Infirmier aux urgences, Sébastien fait partie des salariés en grève. Au moins une cinquantaine de lits sont fermés sur l'ensemble du centre hospitalier, dit-il, faute de personnel suffisant.
Le problème essentiel, c'est les lits d'aval pour pouvoir hospitaliser les gens. On est évidemment moins à l'écoute, moins dans l'empathie quand on est soumis à cette pression. Il y en a qui veulent changer de métier, il y en a qui veulent quitter l'hôpital, il y en a qui craquent. On est dans un ras-le-bol général.
Pour limiter les fermetures de lits, la direction de l'hôpital a largement utilisé le dispositif des heures supplémentaires majoré, mais il va falloir aussi embaucher du personnel, reconnaît Bertrand Cazel, le directeur général adjoint du CHU.
On a cette année environ 3% de nos effectifs qui sont vacants, un absentéisme plus important que les années précédentes. Le recrutement reste notre objectif prioritaire pour être en capacité de réouvrir rapidement des lits.
Aujourd'hui, au CHU de Rouen, il y a près de 40 postes de soignants qui sont toujours vacants à cause des difficultés de recrutement.
Un reportage signé Yann Gallic. Alors pour éviter au maximum la transmission du virus ce soir lors du réveillon. Rappelons que de nombreux départements ont décidé de fermer les bars et les restaurants à 2h, voire 1h du matin, comme dans le Var ou le Finistère. Rassemblement festif interdit, couvre-feu à 22h pour les mineurs dans le Bas et le Haut-Rhin. Et puis rappelons qu'à Paris, le masque redevient obligatoire dans les rues dès ce matin. Tout n'est pas sombre pour autant. Il y a même une lueur d'espoir qui nous vient de l'Afrique du Sud. Premier pays à avoir signalé le nouveau variant. Le pays a levé le couvre-feu en un mois, le pic de la vague Omicron est passé. Mais en attendant ces jours meilleurs en France, les entreprises sont priées de mettre leurs salariés en télétravail dès lundi sous peine d'amende. 3 jours au moins de télétravail et si c'est 4, c'est mieux. Certaines sociétés n'auront qu'à réactiver un dispositif déjà bien rodé. Mais pour d'autres, l'heure est au casse-tête, Claire Chaudière.
La marche, dit-il, est un peu haute à gravir pour Mathieu Laurette à la tête d'un réseau de centres ophtalmologiques en Loire-Atlantique. Il faut passer en 3 jours d'une vingtaine de postes de secrétaire médical, pour lesquels le télétravail a été expérimenté depuis 2 ans, à 70.
Je dois trouver un moyen pour monter d'un cran et tripler ma capacité de télétravail sous quelques jours. En termes d'équipement, par exemple, on n'a pas du tout ce qu'il faut.
Ce qui veut dire des ordinateurs et imprimantes à acheter, et pas n'importe lesquels, car les données doivent être sécurisées. autorisés, montant
50 000 euros. Dans l'urgence, là, il faut que je prévoie 35 postes à déporter. Essayer, on va le faire, mais réussir, ça va être compliqué.
Sans oublier la galère des plannings à refaire en urgence. Moins de fébrilité, en revanche, dans ces grandes entreprises où l'on était déjà dans les clous, voire au-delà.
Ça pouvait être jusqu'à 4 jours sans difficulté.
Karine Lopez-Moreau, DRH de Siemens France.
On avait appuyé un petit peu sur l'accélérateur parce qu'effectivement, on sentait que la situation se tendait pas mal. On est un peu rodé à l'exercice, on va dire. Là, ça va être un peu plus de 2500.
2500 salariés qui recevront un mail explicatif d'ici lundi, aussi simple que cela, même si certains font la grimace.
Il y a certaines personnes pour lesquelles c'est une vraie souffrance d'être éloigné du bureau.
Mais malheureusement, même pour cela, a tranché cette dirigeante, la règle sera la même.
Claire Chaudière. Mais avant la rentrée de lundi, les Français préparent leur réveillon, souvent chamboulé d'ailleurs à la dernière minute en raison du Covid. Alors un bon déguisement de dernière minute fera l'affaire pour retrouver le sourire. C'est le reportage de Marion Ferrer dans un magasin du 14e arrondissement de Paris.
En temps normal, c'est la cohue dans cette boutique. Mais cette année, Gwen, la patronne des Feux de la Fête, a dû faire une croix sur ses plus gros clients.
Ceux qui tiennent des bars, des restos, etc., n'ont pas besoin de faire appel à nous puisque de toute façon, tout ce qui est boîte de nuit, c'est fermé. Les bars, il n'y a pas le droit de danser, si j'ai bien compris, il faut être assis, etc.
Ça, c'est une grosse clientèle pour vous?
C'est pas mal.
La gérante se retrouve donc avec une réserve pleine de cartons de cotillon. Ce qui lui redonne un peu le sourire, c'est le retour des particuliers. Charlotte, l'une des vendeuses.
Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé pouvoir aller en boîte de nuit, dans des bars et des restos, et qui ont vu que c'était pas possible, que ça allait être compliqué. Qui du coup se sont dit, on va essayer de faire quand même quelque chose d'un peu sympa. D'ajouter l'idée d'un déguisement.
Parmi eux, Florian.
Éventuellement un thème gaulois.
Mais aussi Antoine et Geoffrey. Déguisement obligatoire ce soir pour ses trentenaires, pour égayer un peu la soirée entre amis, une dizaine d'invités à chaque fois.
Pour une soirée space disco, pour s'évader un peu, donc ça va être sympa.
Ça commence à faire 2 ans bientôt, on est en pandémie, il faut qu'on apprenne à vivre avec, et donc il ne faut pas arrêter de célébrer les moments importants comme le changement d'année.
Dans la boutique, les autres vedettes, ce sont les masques à l'effigie d'Emmanuel Macron, Jean Castex et Olivier Véran, histoire de passer en 2022 avec un peu d'humour.
Emmanuel Macron sans masque, en vrai, ce sera ce soir à 20h à la télévision.
Pour les vœux présidentiels, l'occasion de mettre en avant son bilan à 4 mois de l'élection, malgré un climat plombé par la flambée du Covid. Les vœux télévisés, c'est une tradition lancée en 1960 par le général de Gaulle, et depuis, chaque locataire de l'Élysée se plie à l'exercice. Petite plongée dans les archives avec Louise Douillet.
31 décembre 1964, le général de Gaulle n'est pas encore officiellement candidat à sa réélection. Les vœux, pour lui, c'est l'occasion rêvée de vanter son bilan.
Cette amélioration, jamais atteinte jusqu'à présent, de la prospérité nationale, de la condition de chacun et de la vie collective, tout le monde la constate en vérité.
Sur le même modèle, Jacques Chirac enfile ensuite en 2001 l'habit du candidat et dévoile son programme.
Mes chers compatriotes, pour que la France rayonne, pour qu'elle se déploie, pour que chaque Français s'épanouisse dans le monde de demain, nous devons faire le choix de l'Europe, du mouvement et de la fidélité à l'idéal de la République.
Après le bilan et le programme, vient le temps de se présenter en homme providentiel, à l'image de Nicolas Sarkozy en 2011.
Mes chers compatriotes, mon devoir est de faire face et de vous protéger. Vous pouvez être sûr que j'assumerai jusqu'au bout et en totalité, les lourdes responsabilités que vous m'avez confiées.
Un dernier grand oral pour s'élever au-dessus des partis, c'est une habitude. Les présidents candidats à leur réélection se sont tous déclarés tardivement, entre la mi-février et le début du mois de mars. Et
Louise Douillet, à l'étranger, des feux de forêt dévastent actuellement le Colorado. Déjà plus de 500 habitations détruites. 10 000 personnes près de la ville de Boulder ont dû quitter leur domicile devant l'avancée des flammes. Ce coup de fil cette nuit entre Joe Biden et Vladimir Poutine, la conversation téléphonique sur la crise ukrainienne n'a pas fait redescendre la température entre les deux parties. La voie diplomatique reste ouverte avant les négociations prévues en janvier. Le président russe avertit de son côté que des sanctions massives contre Moscou serait une erreur colossale à Washington. Sébastien Paour.
Une photo et des horaires, voilà les deux informations transmises par la Maison-Blanche sur l'échange entre les deux chefs d'État. L'image, c'est celle de Joe Biden, combiné en main, assis à son bureau dans sa maison de Wilmington, où il passe les fêtes de fin d'année. Le coup de fil avec son homologue russe a duré une cinquantaine de minutes. Pour le reste, le président américain a redit son hostilité à toute invasion militaire de l'Ukraine. Il a redit aussi que les États-Unis et leurs alliés y répondraient de manière résolue. Des sanctions mission serait une erreur colossale, répond le Kremlin, qui a amassé plusieurs milliers de soldats aux portes de Kiev depuis 2 mois et qui soutient, sans le dire, les séparatistes du Donbass. La porte-parole de la Maison-Blanche insiste dans son communiqué sur la voie diplomatique prônée par Joe Biden et sur ce préalable, une désescalade avant le prochain rendez-vous entre les deux pays dans 10 jours à Genève. La délégation américaine sera menée par la vice-secrétaire d'État Wendy Sherman. Il sera question des activités militaires des deux pays et de la situation en Ukraine. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
L'Europe débloque une aide d'urgence d'1 million d'euros pour les Philippines après le passage du typhon Rai, intempérie qui ont fait près de 400 victimes et plusieurs dizaines de milliers de déplacés. En fait, ce spectacle de danse pour terminer avec la compagnie de Mourad Merzouki et le spectacle Pixel. C'est au 13e art, une salle qui fêtait sa réouverture dans le 13e arrondissement de Paris, car à cause de danseurs et de techniciens infectés par le Covid, les représentations ont dû être annulées ce mois-ci. Pixel est prolongé jusqu'au 8 janvier et c'est une chance, Amélie Perrier, tant cette pièce de danse mixée de haute technologie est un émerveillement.
Mourad Merzouki n'est pas qu'un chorégraphe, c'est surtout un magicien. Il plonge ses danseurs dans une pluie de pixels, des points lumineux qui s'animent en 3D sur la scène en fonction de leurs mouvements, au point que l'on se demande, Mourad Merzouki, si c'est la machine qui mène la danse ou les artistes qui la domptent.
En réalité, c'est un véritable dialogue. Je crois que c'est pour ça que ça fonctionne, c'est que le spectateur, il repart et il ne sait pas si c'est le danseur qui s'adapte à l'image ou l'inverse. Et en fait, suivant les scènes, parfois c'est l'image qui va donner la direction, le tempo, et parfois c'est l'inverse. C'est le danseur qui va totalement évoluer de façon totalement libre et c'est la vidéo qui va se calquer au mouvement.
Et ça n'a rien d'un gadget. Mourad Merzouki crée une œuvre poétique tout en y ajoutant la modernité de la danse hip-hop, l'émerveillement du cirque avec un cerceau géant et une contorsionniste à la grâce animale. Pixel, depuis sa création en 2014, en est à plus de 400 représentations en France et dans le monde, et toujours le même émerveillement.
Ce spectacle-là peut toucher aussi d'autres continents, d'autres pays, et c'est une vraie fierté, un vrai bonheur de pouvoir partager ma chorégraphie, ce qui m'anime avec le reste du monde.
Ces pixels sèment une énergie spectaculaire, un ballet futuriste pour une rêverie féerique et tellement moderne.
Pixel du chorégraphe Mourad Merzouki, c'est au 13e art à Paris jusqu'au 8 janvier.
Merci Laurence Thomas. Dans 3 minutes, le Zoom, dernier épisode de notre série Les Oreilles d'Or de la Radio France. Les magiciens bruiteurs de la maison de la radio et de la musique. Et on entre dans les coulisses de Radio France avec l'équipe du 6-9 dès le 80 secondes.